Georges Baume. Les espions. Je venais, une fois de plus, d'échouer au baccalauréat de rhétorique. C'était fort ennuyeux. Mon père, M. Vincent Rivière, que tout le monde connaissait dans nos Cévennes parce qu'il était le premier avocat de l'Audève et le chef de la municipalité, se sentit blessé dans son amour-propre. « Claude, tu n'auras point de vacances, me dit-il. Je vais te confier à M. Villa, l'ancien professeur du grand collège de Perpignan. Celui-là te fera travailler, je t'en réponds. » Ah, si vous l'aviez connu, M. Villa, quel brave homme! Petit, sec, tout rabougri par ses 70 ans et gai comme une demoiselle. Parfois, il s'endormait pendant que j'expliquais Tacite ou que je récitais l'histoire de France. Évidemment, ces choses ne l'intéressaient plus. Souvent, il s'en allait boire du vin au cellier sous le prétexte que, l'air de la canicule lui dévorant les lèvres, il ne pouvait à haute voix corriger mes devoirs. Parfois encore, il me racontait des histoires à propos du voisinage. Loin de paraître étonné de ses façons familières, je les encourageais de mon mieux en montrant beaucoup de docilité et une certaine passion à nos moments d'études. M. Villa avait néanmoins un défaut. Il aimait, quoique professeur de grec et de latin, la botanique et la géologie, science peu agréable pour moi, et qu'il approfondissait depuis sa retraite afin de se reposer de Tacite, Cicéron, Échille et leurs mornes camarades, si longtemps fréquentés. À chaque instant, il me parlait des plantes d'avant le déluge, des races d'animaux abolies. J'avoue que les siècles perdus dans les nuages du passé, avec leurs pierres et leurs bêtes, me laissaient indifférent. Mais, un jour, mon professeur me réconcilia brusquement avec sa science. « Demain, me dit-il, tu viendras avec moi à Cabrières. Nous étudierons la géologie sur place. »« En promenade ?»« Oui, nous partirons de bon matin et nous ne rentrerons que le soir. Ne te mets pas en frais de toilette, sais-tu. Au contraire, habille-toi en sauvage si tu peux. »« Nous allons courir des risques ?»« Non, je pense simplement à ces pierres terribles qui déchirent les mains et les costumes. Tu as la jambe solide ?» « Oui. D'ailleurs, nous aurons une carriole. »« Avec un cheval ?»« Non, un âne. C'est plus facile à conduire et nous aurons l'avantage, pendant qu'il rêvera en marchant sur la route, d'examiner le paysage. » J'étais heureux. Une promenade en charrette par le frais de l'aube, avec mon maître qui ne grondait jamais. Le lendemain, je fus exact au rendez-vous. Chemin faisant, M. Villa voulut me renseigner sur le pays solitaire où il semblait aller chercher fortune. Cabrières, pays de chèvres, collines pelées et incultes entre l'étang de Thau et le plateau du Larzac, au premier contrefort des Cévennes. Cabrières renferme, en ses terrains d'argile et ses calcaires, des monstres, des bêtes, des poissons, de l'âge antédiluvien. Mon maître chérissait ce pic de Bissou, cette forêt de casoul, d'où il avait extrait tant de coquillages et de cailloux. Cabrières. Il prononçait ce nom avec emphase. Il visitait si fréquemment cette solitude que les rustres du hameau auraient dû le connaître. Mais ceux-ci, toujours occupés à garder leurs chèvres dans les bois, à fouir le sol des vignes dans leurs enclos jaloux, ne voient que le ciel bleu au-dessus de leur tête. Ils semblent, eux aussi, de même que leurs collines, dont ils ignorent la poésie et la richesse, appartenir à quelque monde préhistorique. Simples d'esprit, rudes et laborieux, ils aiment âprement leur patrie, d'où ils ne sortent jamais. Ce n'est pas sans angoisse qu'ils aperçoivent de temps à autre, par les sentiers de leurs vallons et de leurs coteaux, un inconnu à face poudreuse, chargé de bissacs et portant lunettes. Quand nous arrivâmes à Cabrières, le hameau était désert, les maisons et les étables closes. Tout le monde travaillait au champ. Nous arrêtâmes la carriole 2 kilomètres plus loin, au pied du pic de Bissou, dans les broussailles, au-dessus d'une rivière qui formait ravin. Notre âne, attaché à un piquet, parmi des genêts et des lavandes, pourrait se réjouir d'une large pâture. Mon maître et moi, nous grimpâmes au sommet, non sans tirer la langue. car, accoutrés comme des pèlerins partis pour un long voyage, en guêtres et chapeaux de paille, nous portions des sacs garnis de vivres, de cahiers et de lorgnettes. En outre, le soleil dardait ses plus chauds rayons. Notre premier déjeuner me remplit d'aise et de courage, auprès d'une source froide que Dieu avait dû placer là en faveur des savants qui vagabondent, à l'ombre de l'arbre unique de la cime, un figuier aux feuilles bruissantes comme des ailes. La terre nous offrait, sous le vaste ciel, le spectacle de sa splendeur. Les collines noires, où des pierres éparses se dressaient, avec des visages bourrus, les plaines que doraient les blés et que verdissaient les vignes, et là-bas, dans les brouillards de la lumière, les eaux éblouissantes de l'étang. J'étais ravi. Je me sentais l'esprit si clair, l'âme si forte, que j'eus l'espérance de trouver plus de goût à l'étude désormais. Quant à mon professeur, il oubliait sa maison, le vin du cellier, mon baccalauréat, pour arpenter la colline, gratter le sol des pieds et des mains. Après le dîner de midi, il déterra dans une haie une pierre énorme aux lueurs de joyaux. Alors, quel cri d'enthousiasme ! Il enfouit la pierre dans son sac sans consentir à me la confier une seconde. « Si tu laissais tomber mon trésor, me dit-il, ça vaut des centaines de francs, sais-tu ? Et je ne parle pas de la gloire que saurait tirer de ma trouvaille un professeur de Montpellier. » Cependant, il examinait les environs et les lointains. Il écrivait avec frénésie sur ses cahiers des mots et des chiffres, pour moi inintelligibles. Par intervalles, il me prêtait sa lorgnette, m'enseignait l'histoire des plantes et des pierres. Comment nous serions-nous souciés, dans notre joie, des paysans ombrageux de Cabrières qui, réunis au coin d'une vigne, nous épiaient en délibérant. Vers 4 heures, mon maître, que la passion de la géologie avait rendu si valeureux, commença d'éprouver de la fatigue. Néanmoins, tandis que nous dévalions vers la carriole, il ne cessait de discourir afin de m'encourager, je pense, à l'accompagner une autre fois. « Oui, mon cher Claude, nous rapportons une pierre qui vaut son pesant d'or. Et elle pèse, mon fils. Toi aussi, tu es fatigué, ne te plains pas, ça te fera du bien. Encore une leçon pareille, et tu seras plus ferré sur la géologie que les docteurs de la faculté. » Nous arriverons chez nous à la nuit tombante, le bourricot trottera mieux à la fraîcheur du soir. Sans doute, mais regardez ces paysans, là-bas. Ma foi, c'est vrai, on dirait qu'ils gesticulent vers nous. Ils m'inquiéteraient s'ils n'étaient pas des ignorants. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient capables, en nous prenant pour des Prussiens, de me dérober le trésor que je porte. Depuis la guerre, ces nigauds se méfient de tous les voyageurs qui traversent leur pays. Mon maître éclata de rire avec une exubérance qui secoua le sac sur son dos. Nous eûmes de la peine à atteler notre âne, dont l'échine brûlait autant que la dalle d'un four. Une fois parvenus dans un chemin assez paisible, nous montâmes sur la carriole et en avant les coups de bâton pour animer la bête. Nous soupirions de bien-être, les jambes pendantes. Nous ne songions plus qu'au plaisir de paraître triomphants à l'Odève, lorsque soudain, en débouchant sur la grande route, les paysans que nous avions oubliés surgirent tous ensemble du ravin de la rivière devant nous. Un brute à la barbe noire prit notre âne par la bride pendant que les autres nous ordonnaient sans réplique de descendre du véhicule. « Ma foi, gémissait M. Villa, est-ce que nous ne sommes plus en France ?» Des bras vigoureux nous entraînèrent, et nous voilà sur la route, cheminant entre les paysans velus, dont les poings faisaient peur. Nous protestions, vous pensez, de toutes nos forces, surtout le père Villa, qui, pour toucher le cœur de ses avares, pérorait en son langage le plus fleuri. Vous nous prenez pour des voleurs. Oh, que vous avez tort! Vous habitez une vallée des plus pittoresques, un paradis, je vous jure. Nous sommes venus y chercher des trésors qui n'ont point cours à la bourse, malheureusement. Assez ! Riposta un vigneron en moustache, lequel, habillé d'une veste, devait être un personnage. Assez ! Croyez-vous donc qu'on s'aventure chez nous sans passeport ? Ils viennent trop d'étrangers depuis la guerre. Je suis M. Villain de l'Odève. Les paysans, d'un commun élan, ricanèrent et le vigneron cossu m'interpella. « Et toi, tu n'es pas un prince par hasard ?»« Je suis l'élève de M. Villa, le fils du maire de l'Odève. » Ils ricanèrent de plus belle. Là-bas, dans Cabrières, tous les villageois, revenus de leurs champs, se rassemblaient sur la place en un grand émoi. « Pour qui donc, alors, nous prenez-vous ? » demanda mon maître. « Vos déguisements ne trompent plus personne, » riposta Derechef, le vigneron, qui boutonnait gravement sa veste. « On ne prétendra plus que nous ne savons pas garder notre pays. Vous êtes des espions, entendez-vous ? » « Ah, bah, qu'est-ce que je te disais, Claude ?»« Assez, » cria-t-on de toutes parts, « on voit que vous êtes intelligent. Vous jouez bien votre rôle. » Moi, un professeur de rhétorique que tout le Languedoc honore, vous ne m'avez donc jamais vu ici, vous n'avez jamais entendu proférer le nom de M. Villa, eh bien, qu'un de vous me suive à l'Odève. Oui, pour te sauver. Qu'as-tu dans ton sac? Des lunettes, des cahiers, tu dressais des plans de bataille? Si vous voulez me soulager, portez-le, mon sac. Non, conserve-le jusqu'à la mairie, puisqu'il est si lourd. On nous poussait en vociférant par les noires ruelles encombrées de fumier. Pauvre M. Villa, il n'en pouvait plus de marcher, de discourir, de geindre. Au fond de moi, je riais, sachant bien que l'erreur serait vite reconnue et que tous ces paysans, penauds alors, nous présenteraient leurs excuses. Hélas, cela n'arriva point tout de suite. On nous fit monter au premier étage d'une grange à demi délabrée, attenante au presbytère et qui servait de mairie. Là, cependant que la foule hurlait au dehors, en meute enragée autour de notre âne, le maire et le garde-champêtre, deux vieillards entêtés, nous interrogèrent. Le maire, après avoir examiné, en peinant de tout son corps, nos cahiers et nos outils, prononça sur un ton de sagesse « Je ne comprends rien à vos écritures, qui sont là d'ailleurs pour mieux nous tromper. Comme je n'endosse pas la responsabilité de votre arrestation, on vous conduira à Montpellier. » « Moi, vous voulez donc me tuer ?» s'écria mon maître. « Non, si vous n'êtes pas coupable, vous n'avez qu'à vous résigner de bon gré. D'abord, où coucherons-nous ? » ?»« À Cabrières. » »« Oh mon Dieu, que va penser Madame Villa ? Que pensera l'Odève ?»« Et mon père ? » dis-je, sentant mes veines se glacer. « Voyons, je vous répète que je m'appelle Villa de l'Odève. » Votre sous-préfecture, que diable ! Où donc avez-vous l'instituteur, le curé ? Il comprendrait mes écritures, cela. Ils sont en congé cette semaine. Ne reconnaissez-vous pas, à mon accent, que j'appartiens au Languedoc ? Oh, on imite si facilement l'accent du Midi, répliqua le garde. Le maire goyait aussi, s'amusant de notre défaite. En somme, nous n'avions qu'à obéir, à nous soumettre aux desseins impénétrables de la Providence. Au dehors, le peuple nous reçut avec un charivari d'imprécations. Quelques enfants nous jetèrent des cailloux. Et nous deux, traînant la jambe, M. Villa portant sur son dos la besace, on nous enferma à triple verrou dans la geôle, sous la tour du clocher. Quelle obscurité dans ce réduit ! Quelle odeur de terrier ! C'est là que couchaient les pauvres ouvriers, voyageant de commune en commune, les cheminots qui, pareils aux sages de la Grèce, marchent pieds nus et dédaignent l'agrément des apparences. Nous semblions deux fantômes errant dans une cave. Afin d'apaiser mon maître, je lui représentai que, le lendemain, après ces quelques heures d'un supplice consacré à la science, nos maisons nous paraîtraient meilleures. Il prit en effet le parti de rire. Il nous raconta des anecdotes, des actes d'héroïsme, choisis ça et là à travers l'histoire, dans l'intention de me réconforter, de se réconforter lui-même. Tout de même, sur le lit de planche, la fatigue engourdissait nos membres. Le sommeil vint doucement nous faire oublier les misères de ce monde. Lorsque, plus meurtris encore que la veille, nous ouvrîmes les yeux, l'aube blanche baignait les carreaux menus de la fenêtre. Des coqs dans le hameau claironnaient déjà. Des oiseaux pépillaient autour de l'église, jusque sur le larmier de notre toit. Un troupeau de chèvres roula contre le mur. Bientôt l'angélus se mit à sonner, si impressionnant dans le silence de la campagne où voletaient les hirondelles. Mais une rumeur gronda sur la place, la rumeur du peuple, escortant le maire et le garde-champêtre, qui, levés tôt selon leur coutume, venaient nous délivrer. « Il ne m'a jamais tant tardé de revoir l'Odève, » gémit M. Villa. « Ce n'est pas le moment de plaisanter, » maugréa le maire. « Je le vois bien, n'empêche qu'il me semble être dans la lune. » N'ayant rien mangé la veille au soir, nous étions affamés. On eut sur nos instances un peu de compassion. L'aubergiste nous apporta une soupe qui nous parut succulente, abondamment fournie d'ail et de tomates. Nous eûmes, à vrai dire, un long temps pour nous réjouir, car le garde et le maire rédigeaient de compagnie le procès-verbal de notre arrestation. Ce fut pour eux toute une affaire. Ils s'entraidaient avec de grands efforts, consultaient le plafond, frappaient le pupitre de leurs poings calleux. Nous étions si contents, mon maître et moi, de revoir des maisons, des figures humaines, que l'espoir de plus en plus s'insinuait dans nos âmes, pareil à la lumière du ciel dans les blés qui frissonnent. Tout à coup, une alarme se produisit sur la place. Des coups de fouet retentirent et la rumeur du peuple cessa. J'eus l'inspiration que mon père venait enfin nous sauver. Malgré le garde, je me précipitai vers la fenêtre qu'il dut ouvrir. Tandis que mon maître, sur le banc poisseux, tremblait de joie, moi aussi, fou de bonheur, je criai « Papa, papa, attends-nous !» Mon père, lui, était connu jusqu'à Cabrières, parmi ces paysans dont quelques-uns avaient affaire, de loin en loin, au tribunal de l'Odève. Mais n'avais-je pas prédit que, dans leur lâcheté d'enfant, ils mettraient, sans transition, une hâte fébrile à se rétracter? De la haine, ils passèrent à la tendresse la plus excessive. Dès que je fus descendu de la mairie, ils m'entourèrent pour me toucher la main. Des enfants s'approchèrent de mon maître avec respect pour l'aider à porter le sac chargé de son trésor. Le maire et le garde s'étaient avancés humblement à travers la foule. Ils demeuraient courbés devant le fouet de mon père qui se dressa sur sa voiture éclatante et au milieu du recueillement de tous, parla. « Insensé que vous êtes, qu'un mauvais plaisant apprenne votre méprise et tout le Languedoc vous chansonnera !» « Il faut nous pardonner, » répondit le maire. « Nous souffrions plus que vous de nous sentir menacés par des espions de la Prusse. Enfin, si chaque étranger emportait une pierre de la colline comme M. Villa, nous n'aurions bientôt plus notre pic de Bissou. » On riait. Nous nous installâmes sur la voiture et mon maître serrait son sac sur ses genoux. Un claquement de fouet annonça le départ. Après que le vigneron cossu, dans sa veste de toile, nous eut promis de ramener avant le soir notre carriole à l'Odève. Quelle délice ! Je rendais grâces à Dieu d'avoir donné aux paysans de Cabrières une âme si naïve, puisqu'il me permettait de faire une seconde fois, au soleil du matin, par les champs trempés de rosée, une promenade d'autant plus charmante qu'elle était imprévue. En route, mon père et M. Villa évoquaient les temps antiques, César, Vercingétorix, les Sarrasins, le roi d'Aragon, dont les armées avaient foulé le sol de notre plaine. Mon maître, brusquement, se tourna vers moi. « Dis, s'écria-t-il, quand tu voudras t'imaginer l'aspect des Huns et des Vandales, tu n'auras qu'à te rappeler ces paysans à face rousse et dure, qui semblent en parlant broyer des cailloux, et dont les poings farouches nous frappaient comme des marteaux. »